C'est une histoire fabuleuse, le centre Pompidou. Et il faut se rendre compte qu'il n'aurait jamais dû être construit.
Votre attention, s'il vous plaît. Fermé depuis le 2 mars 2025 pour une durée de 5 ans, la BPI quitte le bâtiment emblématique du centre Pompidou et déménage temporairement dans le quartier de Bercy. Afin de préserver son esprit, le podcast Capsule BPI vous invite à découvrir ou à redécouvrir cette bibliothèque à travers les témoignages de celles et ceux qui la font vivre. L'épisode du jour revient sur l'histoire de ce bâtiment iconique qu'est le Centre Pompidou, retour sur cet ambitieux projet mené par deux architectes, Renzo Piano et Richard Rogers, qui ont pensé cet ovni architectural implanté en plein cœur de Paris. Une chose est sûre, qu'on l'aime ou non, ce bâtiment ne laisse pas indifférent.
Alors voilà, je m'appelle Maïta, je travaille pour le service art et littérature et je suis chargée de collection pour l'architecture et le patrimoine. Architecture tout pays, toute époque, et patrimoine, c'est le patrimoine européen du 5e siècle jusqu'à la fin du 19e. Je suis très sensible au bâtiment. Je m'y suis beaucoup penchée, comme je le connais bien, puisque je l'ai vraiment étudié. J'ai fait énormément de recherches sur l'architecture, sur son histoire, sur ses architectes. C'est une histoire fabuleuse, le centre Pompidou. Et il faut se rendre compte qu'il n'aurait jamais dû être construit, parce qu'en fait, au début, Renzo Piano et Richard Rogers, ils ne voulaient pas concourir, ces deux jeunes architectes qui avaient une trentaine d'années. Et ce sont les ingénieurs anglais qui les ont poussés à concourir. Et quand ils ont envoyé les rouleaux par la poste, le format ne passait pas. Ils ont dû les renier, ils sont revenus à Londres. Et pour qu'ils soient dans les délais, le postier a dû faire un faux pour que les rouleaux puissent arriver dans les délais du concours. Donc c'est une histoire assez rocambolesque. Et Renzo Piano, quand on lui a dit qu'il avait gagné, on lui a dit qu'il était laureato. Et laureato, en italien, c'est diplômé. Donc il ne comprenait même pas qu'il avait réussi le concours. Donc ça a été une aventure.
Je m'appelle Luis Cercos. Je suis ingénieur et architecte, aussi historien de l'art. Et travailler toujours sur monuments historiques et bâtiments préexistants. C'est mon spécialité et c'est pour ça que je suis à la BPI maintenant. Depuis mon entrée, je m'ai occupé de la conservation des espaces architecturaux et aussi l'immobilier de la BPI. C'est, à mon avis, la première pièce de la reconstruction de la Nouvelle-France. Quand nous parlons jusqu'à 1978, de ça que la France a fait, c'est toujours la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. C'est à partir de 1968, c'est à partir de Georges Pompidou que la France commence à regarder le futur. Donc, ça, à mon avis, sans le Centre Pompidou, l'histoire de l'axe que j'appelle les Beaubourg, les Halles, Notre-Dame, Louvre, Orsay, la Défense, aurait été une histoire différente.
Le concept premier était génial, c'est vrai. Et il correspondait alors peut-être à une société aussi, enfin les années 60, on était au lendemain des Trente Glorieuses, donc c'était une époque très légère. Ce concept, cette utopie et cette volonté de démocratisation de la culture, je crois que le centre l'a vraiment réussi. C'est-à-dire qu'en fait, le centre répondait à un idéal hein, de démocratisation de la culture avec très peu d'hiérarchie. L'architecture le montre, c'est qu'en fait, on descend vers le centre Pompidou. La piazza est en pente. Le centre Pompidou est un aspirateur. Il aspire le public. Il n'est pas là pour impressionner. Il ne voulait pas être, ça c'était une demande de Pompidou, il ne voulait pas être là pour... Il ne voulait pas être un musée. Il voulait vraiment être un grand bazar générateur de rencontres de public. Et effectivement, par les arts, tant pour la bibliothèque que pour le musée, les expositions, les salles de spectacle, les salles de cinéma. Et c'était vraiment des rencontres de public. Et c'est vrai que du coup, dans cet esprit post-68, hein, qui c'était pour répondre aux aspirations de la jeunesse, qui voulait autre chose. Donc c'est l'anti-palais de justice, c'est l'anti-palais des beaux-arts, c'est l'architecture qui aspire. Même le public devait pouvoir traverser le forum. On devait pouvoir arriver vers la piazza et passer de l'autre côté.
C'est un lieu aussi qui n'a pas beaucoup de portes par rapport à la grandeur du lieu. Il n'y a pas beaucoup de portes, c'est vraiment l'ouverture. Enfin, moi, je le répète, c'est repousser au maximum les fermetures. C'est vraiment en travaillant dedans que tu te rends compte de la symbolique de ce qui porte, de ce qu'il apporte de par son architecture.
Le fait aussi de son architecture qui reflète son esprit de plateau libre, de grand plateau libre, ce que voulaient les architectes, hein, Renzo Piano et Richard Rogers. Leur idée, quand ils ont construit ce bâtiment, c'était une très grande flexibilité et permettre la mobilité et la pluridisciplinarité. Donc, ils ont livré une structure et on pouvait en faire ce qu'on voulait et on devait pouvoir changer aussi comme on voulait. On pouvait bouger les emplacements des bureaux, des prises, tout était possible. Et c'était vraiment la grande idée de ne pas avoir de cloison. Donc la grande idée de cette architecture, c'est la structure reportée sur l'extérieur, hein, tout ce qui est circulation, la chenille, toutes les gaines techniques sont repoussées vers l'extérieur. Et à l'intérieur, ça permet ces grands plateaux d'être aménagés comme on veut. Donc c'est une grande liberté.
Pour moi, le Centre Pompidou, c'est une infrastructure plus qu'un bâtiment. C'est une infrastructure à la manière d'un aéroport, à la manière d'une place couverte, un lieu pour nous rencontrer.
Et non, mais puisque je trouvais qu'il m'aime beaucoup, c'est les chenilles, je montais, je descendais les chenilles, parce que je trouve ça très amusant. Et en plus, ce que j'explique aux touristes quand on fait les files d'attente, je dis, surtout, prenez votre temps. Arrêtez-vous à chaque plateau et vous allez découvrir Paris par étapes. Vous allez être au niveau un ou deux des étages, après vous êtes sur les toits, après au-dessus des toits, après très au-dessus des toits. Je dis, c'est formidable. Ça, c'est un souvenir. La première fois de monter comme ça et d'avoir une vision progressive de la ville. Et pour moi, c'est un acte culturel. Enfin, que le centre permette ça, c'est comme s'il y avait un regard sur la ville. C'est comme si le centre est dans la ville, quoi.
C'était un bâtiment pour le quartier aussi. Pour eux, ce n'était pas forcément une vocation internationale. La Piazza, pour eux, justement, si ce bâtiment existe, qui a été retenu dans les concours d'architecture, c'est parce qu'il a laissé une place libre. Ils ont laissé cette Piazza pour justement qu'elle soit investie par le quartier et que la place soit autant extérieure et continue à l'intérieur. Il y avait vraiment cette porosité. On parle d'ici d'un anti-monument ou un moviment. C'est le mouvement, donc le monument qui bouge, ou l'anti-monument, parce qu'effectivement, il est complètement poreux avec la rue.
Et la Piazza, donc ce qu'on appelle, on appelait le parvis, nous, du Centre Pompidou, la Piazza, là, la place qui est devant. À l'époque, moi, je me souviens très bien, quand j'étais beaucoup plus jeune, mon oncle m'amenait là, et c'était, la place était recouverte de saltimbanques, d'art de rue. Donc, on avait des chanteurs, des danseurs, des cracheurs de feu, des avaleurs de sabre. Et c'était, il y avait une faune autour du Centre Pompidou, et qui rentrait, qui sortait du centre, qui faisait partie, en fait, de la vie du Centre Pompidou, qui était incroyable, incroyable. Il y avait des artistes partout, des artistes de rue partout autour du centre. Il y avait effectivement ce lieu de culture au centre de Paris, mais c'était aussi bien dedans que dehors. Et ça durait une grande partie de la nuit. Hein. C'était festif, il y avait un truc... Bon, après, ça va avec l'époque, hein, bien sûr.
En fait, moi, j'ai connu la BPI parce que j'étais venue la visiter avec ma mère quand j'avais 13 ans. Et donc, ma mère voulait absolument voir la bibliothèque, mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était ce qui se passait autour de la bibliothèque, et notamment tout ce qu'il y avait sur la Plaza, parce qu'à l'époque, en fait, on pouvait faire beaucoup de bruit. Donc, il y avait beaucoup de musique, de battleurs, de personnes qui haranguaient la foule, et moi, ça me fascinait énormément. Et notamment deux grands personnages qui étaient assez connus à l'époque, qui s'appellent donc Agigi Mouna, qui avait plein de badges sur son béret, avec son vélo rigolo. Et puis John Guez, hein, qui lui faisait, organisait des spectacles de rue avec les gens qui sortaient du Centre Pompidou. Alors Agigi Mouna, en fait, il avait une barbe blanche, Il avait un béret avec plein de badges dessus. Et puis, en fait, il hissait sur un petit plot pour qu'on l'entende. Ou parfois, il faisait du bruit avec son vélo. Et puis, selon son thème, il improvisait énormément. Il lançait des slogans à la foule et faisait réagir les gens. Donc, il aimait bien avoir beaucoup de monde autour de lui. Et ce que j'aimais bien, c'était son côté très politique, en fait. Toutes sortes de gens qui, eux, ne pensaient pas du tout à la politique ou quoi, s'attroupaient autour de lui. Et il y avait des discussions qui s'entamaient. Et pour moi, qui étais ado, je trouvais ça génial, quoi. Cette effervescence, toute cette ambiance, en fait, m'attirait énormément. Donc, moi, ma mère essayait de me ramener dans le centre et dans la bibliothèque. Mais moi, ce que je voulais, c'était rester dehors. Et parce qu'il y avait plein de gens très différents, hein, j'entendais toutes les langues. Et puis, il y avait surtout une ambiance qui était extraordinaire, quoi. Voilà. Et donc, après, quand je suis rentrée dans la bibliothèque, je me suis rendue compte qu'en fait, toute l'ambiance qu'il y avait dehors était un petit peu la même, mais en version silencieuse. Mais qu'il y avait cette espèce de chaos, de diversité, de liberté que je trouvais dehors et en fait que je ressentais une fois entrée dans la bibliothèque.
Ce bâtiment, il me plaît beaucoup, moi. Je ne sais pas pourquoi, mais il est transparent. Là, on est en contact avec la ville, alors, y compris avec le son de la ville. Parce que hier, on entendait bien les sons de la ville. Et donc, on n'est pas sur une île déserte. Quoi. Puis le bâtiment, je trouve que c'était audacieux quand même.
Je trouve que Georges Pompidou avait des idées d'avant-garde. Hein. Je trouve, de l'extérieur, il a une allure du tonnerre. C'est mon avis, hein. Même en journée et le soir. Il a beaucoup d'allure. Hein. Il n'y a pas ça nulle part ailleurs, en France. Non.
Quand on se penche sur la revue de presse qui existe, les premiers articles, bon, voilà, c'était tous les sobriquets, le paquebot, la raffinerie, Notre-Dame des tuyaux, la fanfare de cocardière. Ce qui est incroyable, c'est que c'était la raffinerie alors qu'on était juste après les deux chocs pétroliers. Enfin, non, juste après le premier, pas encore le deuxième en 79, et qui était en fait la fin, hein, qui sonnait la fin de l'ère industrielle. C'est un peu le dernier témoin de cette époque des Trente Glorieuses, quoi, d'un esprit fun, de liberté, etc. C'était un peu le dernier témoignage. Quoi.
En dehors, quand j'avais vu pour la première fois, parce que je ne savais pas, j'avais vu de l'extérieur, donc j'avais imaginé que c'était une usine. Voilà. Mais après, on m'a dit que c'est une bibliothèque. J'ai dit, ah, attention, avec les fers là et autres. J'ai dit non, ça ne peut pas être, parce que souvent, les bibliothèques, c'est avec les vitres un peu. Mais bon, je ne dis pas que c'est moche, mais c'était mon avis, quoi. Après, je vois que c'est pas mal quand même, c'est pas mal. À l'intérieur, c'est grand.
Et là, j'ai vu cette espèce de navire amiral avec ses tubes. Je l'ai vu par la Piazza et pas par la rue Beaubourg, la rue du Renard. C'est très intéressant parce que je me suis dit, ça a l'air inaccessible. Ça me paraissait énorme à appréhender. Vous savez, c'est ces lieux où on se dit, j'arriverai jamais à appréhender ce lieu. Je l'ai trouvé très, très beau la nuit.
Ouais, l'architecture me plaît énormément. Mais bon, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais j'adore ce truc. Ça invite au voyage, à la découverte. T'as envie de rentrer dedans, t'es curieux et t'es pas déçu quand tu rentres dedans. Non, il est magique. Et il est coloré. Donc ça, c'est pour moi, c'est la vie, c'est beau, c'est pas triste.
Je disais à un ami, il y a deux jours, en marchant, ce sont des dizaines de millions de gens dans le monde, pas qu'en France, pas qu'à Paris. Ils aiment ou ils aiment pas, c'est pas grave. Mais il n'a jamais laissé indifférent.
Et c'est vrai que c'est un ovni architectural dans Paris. Et le fait de pouvoir aussi monter, quand je vais voir des expos là-haut ou au musée, c'est la plus belle vue de Paris. Donc on est au cœur de Paris, un cœur, que c'est un magnifique texte de Francis Ponge qui décrit le Centre Pompidou comme un cœur, une pompe.
Au cœur de Paris, un cœur, un muscle, une pompe aspirante et refoulante. Au battement ininterrompu, animant sans repos, régulièrement, moins régulièrement parfois, au moment d'émotion et de fièvre, un corps en forme d'hexagone. Voilà ce que devrait être, serait, sera, est déjà le bâtiment Beaubourg. Moins donc un monument que s'il faut inventer ce mot, un moviment. Francis Ponge. Capsule BPI, c'est fini pour aujourd'hui. Nous remercions Agathe, Cheikh Abdoul, Frédéric, Jean-Philippe, Laurence, Laurent, Louis, Maïta, Myriam et Stéphanie qui ont bien voulu répondre à nos questions. Ce podcast a été imaginé, enregistré et monté par Fanny Tapia au développement des publics, Julie Lavielle, chargée d'études en sociologie, et Marion Ribera à la communication. Mixage Renaud Guisse et conception graphique Claire Mineur.